Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver déjà à partir de 11h pour le Club de la Presse. Nous sommes aujourd'hui au mercredi 13 mars de l'année de grâce 2024. Et merci de nous choisir pour ce troisième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Iteda TV est à la mise en onde. Jérôme Akouta sur la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Loussou. Nous saluons d'une manière fraternelle vous tous et qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, confrères journalistes en studio, Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à tous les fidèles branchés.
Comment tu vas?
Oui, je suis tenté de dire à la Togolaise, mais à la Togolaise, je ne sais pas si c'est en bien ou c'est en mal. Mais bon, je le dis comme souvent à la Togolaise.
Et à la Togolaise, il y a toujours quelque chose qui s'y cache.
Oui, en réalité, bon, souvent quand nos compatriotes disent à la Togolaise, c'est généralement du mauvais côté, quoi. C'est-à-dire que la vie en soi n'est pas rose, mais on fait avec. En réalité, c'est le sens de l'expression à la Togolaise. C'est-à-dire que bon, ça ne va pas, mais bon, on se bat pour maintenir tout à flot. Bon, en réalité, c'est ça. Donc, chaque jour que Dieu fait, on vit à la Togolaise et on espère qu'un jour, ce sera donc, je ne sais pas, à la quoi?
Je ne sais pas trop. Toujours jaloux de ses acquis. Abbas Issaka, bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Bonjour à tous, salut à tous ceux qui nous écoutent. Je profite de l'occasion pour souhaiter un bon jeûne de Ramadan à tous les fidèles musulmans.
Tout à fait.
Qu'on a bien commencé et qu'Allah nous accompagne pour le terminer dans de bonnes conditions. Et qu'on ait sur nous les moyens de pouvoir supporter les difficultés, que ce soit au niveau des finances, que ce soit humaines ou que ce soit au niveau de la solidarité, pour qu'on en finisse bien avec ce carême. Dans de bonnes conditions et qu'on ait de bonnes œuvres
tout à fait.
De ce carême.
Tout à fait. Nous vous souhaitons aussi de bons carêmes et que Allah vous édifie à ce que vous arriviez à terme alors de cela. Nous sommes au mercredi et nous parlons souvent santé et avec santé éducation. Ce matin, nous recevons notre confrère Raymond Diakwata. Raymond, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Comment tu vas?
Ça va bien.
Et les activités?
Ah, ça va.
D'accord. Je le disais, avec santé éducation, nous faisons un clin d'œil hein, souvent à tout ce qui est information liée alors à la santé. Aujourd'hui, nous savons que c'est le 13 mars. 13 mars, c'est la journée mondiale du rein. Et journée mondiale du rein, vous avez consacré l'apparition alors de ce jour à cette journée mondiale. Vous êtes revenu alors sur des sujets qui traitent même d'ailleurs de cette thématique, c'est-à-dire du rein. Et déjà à la une alors du journal, vous écrivez trois super boissons pour la santé des reins. Et dans l'article que vous publiez, vous dites déjà dans le chapeau, je lis une partie juste à l'heure du chapeau, vous dites un adulte alors sur 10 souffre d'une affection rénale, soit près de 850 millions de personnes dans le monde entier. Alors c'est trop, non?
Bien sûr que oui, c'est trop. Mais le quiproquo, c'est que bon, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte vite qu'on souffre d'une maladie rénale. Comment ça se fait? Parce que les reins, tout d'abord, les reins filtrent le sang et éliminent également les déchets toxiques via l'urine. Mais cela arrive que les reins tombent malades dû à des causes qui sont l'alimentation, la mauvaise alimentation. Et il y a aussi l'hérédité. L'hérédité, quand un parent a souffert d'une maladie rénale, il y a de fortes probabilités que un de ses enfants risque...
Sa progéniture, voilà fait donc, vraiment cette maladie.
Oui. Maintenant, bon, par rapport à la protection, la plupart ne comptent, et c'est ça qui fait que c'est à la dernière minute que bon, on diagnostique l'insuffisance rénale par exemple, et là c'est un peu compliqué, et voilà, c'est pour cela qu'on a sorti cette spéciale parution sur la santé des reins.
Voilà. Et donc, d'habitude, il est très important quand même que nous allions à l'hôpital pour au moins arriver à faire un diagnostic, même d'ailleurs, de notre rein ou de nos reins. C'est important.
Oui, c'est important. Et tout d'abord, je voulais dire que bon, quand on est là, et puis il y a des signes annonciateurs, il y a l'urine, quand on urine, surtout la nuit, abondamment. En fait, ce n'est pas systématique que c'est l'insuffisance rénale ou bien les maladies rénales, mais ce sont des signes qui montrent que normalement on devait aller se faire consulter. Donc il y a l'urine abondante la nuit, il y a la
fatigue, répétition, vous voulez dire.
Oui, à répétition. La fatigue intense, il y a aussi les douleurs au bas du dos. Donc ce sont les différents signes qui annoncent qu'on a peut-être un problème au niveau des reins ou bien d'autres maux aussi peuvent être à l'origine de cela.
Et quand nous sentons ces signes, rapidement, nous devons nous rendre alors dans un centre de formation sanitaire. C'est très important.
Oui, c'est important.
D'accord. Alors, au-delà alors de ces boissons hein, que vous avez évoquées pour lutter contre surtout ou pour donner une bonne santé aux reins, vous parlez aussi de l'alimentation et vous écrivez « Alimentation pour dialyser et insuffisants rénaux ».
Oui, cet article est un article bien fouillé et c'est un article qui est destiné aux personnes qui sont déjà diagnostiquées. En fait, la plupart du temps, quand on diagnostique une maladie rénale à quelqu'un, ou surtout l'insuffisance rénale, on perd l'espoir. On se dit que, ah, désolé, c'est que c'est fini, voilà. Mais nous sommes conscients que, voilà, si vous vous prenez en de très bonne forme, vous avez des informations utiles pour vivre, vous aurez quand même à concrétiser cette santé-là.
Vraiment, ce qui amène souvent ces gens-là qui souffrent d'insuffisance rénale à perdre espoir, je pense que c'est parce que il n'y a pas aujourd'hui un traitement efficace alors pour cette maladie.
Il n'y a pas un traitement efficace, oui, et aussi peut-être qu'il n'y a pas d'informations en réalité. On peut vivre de l'insuffisance rénale. Il y en a des cas que quand ils ont été diagnostiqués, ils ont eu la chance d'avoir des informations utiles et surtout de contrôler la nourriture et ainsi de suite. Et aller surtout se faire consulter à chaque moment avec son médecin. Donc on pouvait quand même pas éviter, mais vivre avec l'insuffisance rénale.
Vivre avec l'insuffisance rénale. Et vous dites aussi qu'il y a certaines habitudes hein, qui détruisent les reins et ces habitudes sont à proscrire.
Oui. Nous avons beaucoup d'habitudes que nous ignorons en réalité, qui peuvent endommager en fait les reins. Donc, il y a dans le journal quelques dizaines, mais je vais dire par exemple la consommation excessive des aliments en boîte de conserve. Les études ont révélé que la plupart du temps, ces personnes-là sont à risque. Et il y a aussi le fait de retenir l'urine à longueur de journée. Donc ça, c'est puisque déjà on disait dans la fonction principale du rein, c'est d'éliminer les déchets via l'urine. Et là, si on retient de l'urine, c'est qu'on est à risque. Il y a aussi le fait de ne pas boire assez suffisamment d'eau. C'est pas bien. Donc voilà quelques mauvaises habitudes en fait qui peuvent détruire les reins et surtout qui peuvent amener à des complications au niveau de la maladie.
Et donc nous devons laisser de côté ces habitudes là. Et également vous êtes toujours hein, dans la veuve alors de la journée mondiale alors du rein 2024. Vous parlez alors de la viande rouge carbonisée et vous nous dites alors de faire attention au cancer alors du rein.
Oui, la viande carbonisée, ce n'est pas forcément les tchitchingas. Mais les tchitchingas grillés, je sais pas, genre c'est quand même très carbonisé, je ne sais pas comment expliquer. Mmh. En effet, on dit fion. Mmh. Voilà. Pourtant, quand on nous donne cela, on mange. Et ce n'est pas bien.
Parce et on que trouve les... peut-être cela aussi intéressant.
Mmh. Et ce n'est pas bien parce que cela endommage les reins. Les reins n'arrivent plus à travailler comme il faut et c'est le corps qui est à risque. Mmh. Donc, voilà.
Les reins sont des organes très vitaux. Hein, oui. Enfin, dans notre organisme, il est très important que nous protégeons ces reins. Mm. En faisant même aussi, ou en pratiquant un certain nombre d'activités. Mm. Je ne sais pas si les activités sportives également participent à la bonne santé des reins.
En réalité, la santé, il y a tous les organes qui sont concernés. Et les reins, ils sont aussi. Du coup, quand on fait du sport... les activités physiques, la bonne alimentation. En fait, c'est ça qui garde les reins en bonne forme. Et donc, voilà. Vous pouvez voir qu'on avait dit dans les mauvaises habitudes qu'il y a les sports intenses. Oui, les sports intenses aussi.
Ouais, les sports intenses peuvent nous amener à, des à rendre, comment on appelle ton autre rein, à endommager notre rein.
Voilà.
C'est ça?
Oui. Oh. Ce sont les études qui l'ont révélé.
D'accord. Donc, il faut faire les sports ou quand nous voulons faire alors du sport, c'est d'une manière modérée.
Voilà.
D'accord. Vous mettez aussi hein, à la une du journal, quand vous parlez des habitudes qui détruisent les reins, je vois aussi des médicaments. Quoi, il y a les médicaments également qui constituent de risques alors pour nos reins.
Oui, les médicaments, surtout l'automédication. Quand on se sent un peu malade et puis on saute à la pharmacie sans prescription médicale, on se fait nos propres médicaments en réalité. Et là, on risque de faire dommage aux reins et surtout de créer des complications au niveau des reins.
Et d'habitude même d'ailleurs, hein, pour la population, on a cette tendance de consommer des médicaments que nous appelons d'habitude des médicaments de rue ou encore des pharmacies par terre. Et je pense que ce n'est pas aussi bien que ça. Ça pourrait endommager aussi les reins.
Oui, ça pourrait aussi endommager les reins puisqu'on ne maîtrise pas la dose. En réalité, c'est la dose qui est importante. C'est pourquoi on dit de toujours avoir une vision ou bien... qu'il ait un médecin qui te prescrit un médicament spécialement pour ton mal.
Pour une pathologie donnée.
Voilà.
Vraiment, si nous voudrons avoir votre journal Santé Éducation de ce matin, quels sont les numéros à contacter? Puisque le journal est dans les kiosques et dans les bacs depuis ce matin, quels sont les numéros à contacter? Si nous voulons aussi l'avoir en PDF, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ok, le journal est déjà disponible dans les kiosques et pharmacies. Et aussi, vous pouvez le voir sur notre site web www.santé-education.tg et au prix de 500 francs. Et la version papier est à 1000 francs. Donc, pour le numéro à contacter, vous avez le 96 14 97 97. Et le 91-79-47-07.
Raymond Diapata, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'avoir le personnel à l'heure de santé et éducation pour parler de ce qui ne va peut-être pas alors dans notre organisme et aussi prendre des précautions, avoir des conseils et autres pour mieux vivre ou avoir une bonne santé. Merci beaucoup.
Merci.
Vous passez une bonne journée. Sylvestre, journée mondiale alors du rein, je pense quand même qu'il faut des précautions. Nous, en tant qu'humains, nous, en tant qu'êtres hommes, on a besoin quand même de prendre des précautions pour arriver à mettre alors nos reins dans une bonne santé.
Oui, je crois que c'est la meilleure des choses qu'on puisse nous souhaiter à nous parce que je crois que c'est un organe très important hein, dans tout le système organique. Donc, si nous ne prenons pas assez donc, d'aliments qui puissent maintenir les reins dans de bonnes conditions, je crois que beaucoup ont trépassé hein, du fait donc, d'un fonctionnement à minima hein, donc, de cet organe-là. Je crois aussi que les reins ne supportent pas aussi trop d'alcool. Et ça aussi, c'est un élément important lorsque vous prenez plaisir et à ne prendre que des whisky aussi. Quel type aussi de whisky, des whisky souvent fleuratés et tout. vous prenez trop d'alcool, ça endommage également ce système là,
l'organe,
cet organe là. Donc il ne nous reste un canot. Il y a souvent ce slogan là qui dit que le meilleur médicament c'est nos plats, quoi, en réalité. Donc il faudrait aussi que nous choisissons également une bonne alimentation, hein, avoir donc une ration saine, hein, qui puisse donc maintenir quand même cet organe là. Donc avis à nous tous,
voilà,
hein, de le faire, puisque s'il faut, si vous avez un problème, hein, si on vous diagnostique donc c'est des mots en ce qui concerne cet organe là, ça coûte également énormément. Donc le mieux c'est d'être dans la prévention, hein, pour que nous ne soyons pas victimes donc de nos imprudences, surtout en parlant donc d'alcool et tout, de certains plats, l'huile et tout, voilà.
D'accord. Et Abbas, c'est vrai que nous ne sommes pas des spécialistes, hein, de la santé, mais quand on voit, on écoute même d'ailleurs ce que notre confrère Raymond vient de nous dire par rapport surtout à certaines habitudes, hein, que nous menons et qui font que nous endommageons souvent nos reins, par exemple la consommation des médicaments de rue, et il y a également certains aliments qui ne sont pas appropriés, mais nous les mangeons. Je pense quand même qu'il faut éviter ces choses pour que nous restions en bonne santé.
Ouais, on dit que souvent ce que nous prenons, c'est-à-dire notre santé dépend de ce que nous prenons pour mettre dans nos ventres.
Tout à fait, de nos aliments.
De nous alimenter. Le rein est un organe très très important pour notre organisme parce que c'est lui qui facilite ça fait au moins, ça facilite la circulation, ça dit ça fait que
ça filtre le sang.
Ça filtre le sang et c'est ça qui nous aide à faire de telle sorte que tout ce que nous mangeons, nous consommons, on les élimine
tout à
travers nos reins. Ça nous aide à éliminer beaucoup de déchets et c'est ça qui nous aide à faire le ALA, aller faire des selles, aller faire des urines,
tout à fait,
pour éliminer les mauvaises choses. Donc si maintenant on l'endommage, on fait de telle sorte que ce rein est bouché, ça devient beaucoup plus compliqué et on a des problèmes. On voit comment les gens qui ont les maux de rein, où ils finissent, on leur dit qu'ils doivent subir la dialyse, des choses comme ça. Et c'est dialyse, ça, c'est des choses qui coûtent très cher. C'est des médicaments, c'est aller rester sous pour qu'on vous dialyse. Il y a aussi des appareils souvent qui manquent, il faut les retrouver. Il faut rester sous les appareils de dialyse pendant des heures et parfois pendant des jours pour que vous retrouviez vos reins. Et ce n'est pas totalement, vous n'allez pas les retrouver en totalité. Le mieux à faire, c'est de faire de telle sorte qu'on ne puisse pas endommager nos reins, qu'ils nous aident à faciliter l'élimination de ce que nous consommons et à ne pas chercher à boucher nos reins. En plus, quand vous avez ces problèmes-là en même temps, il faudra aller consulter un médecin, voir comment il faut procéder et qu'est-ce qu'il faut éviter et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse déboucher nos reins, que nous prenons le temps de faire de telle sorte qu'on mange n'importe quoi et on consomme n'importe quel produit sans prescription médicale même. On se rend dans les rues parce qu'on a les maux de tête. On a les maux de ventre, il faut aller prendre les médicaments de rue qui sont sous le soleil, qui ne sont même pas conservés et non protégés pour dire qu'on va se soigner. On fait automédication.
Alors, nous allons quitter cette question alors de santé. Nous allons nous rendre à l'Assemblée nationale. Il y a l'état d'urgence sécuritaire, hein, qui planait depuis dans les savanes. Et cet état d'urgence sanitaire a été prolongé alors de un an. Et puisque normalement c'était hier le 12 mars que l'état d'urgence devait finir, donc rapidement pour être dans les règles, le gouvernement a sollicité encore une autre période pour cet état d'urgence pour que du moins la sécurité soit plus accentuée, soit plus menée dans les savanes. Nous connaissons la situation sécurité au niveau alors des savanes. Si est-ce qu'on pourra dire que c'est une prévision au niveau alors du gouvernement et c'est à saluer.
Oui, en fait, c'est une décision responsable. C'est une décision responsable parce que nous ne sommes pas toujours à l'abri donc des incursions terroristes ou djihadistes. Nous subissons souvent des attaques et donc aujourd'hui, puisque le danger n'est pas écarté, je ne pense pas qu'il faut baisser la garde. Et c'est à juste titre que le gouvernement a sollicité cette prorogation donc de l'état d'urgence dans les savanes. Et donc, pour l'heure, je crois que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Donc, il faudrait qu'on puisse redoubler de vigilance dans cette zone-là. Parce que du moment où nos voisins de l'Ocre du Nord, je veux parler donc du Burkina et tout, avec le Ghana, puisque nous avons aussi des frontières avec ces voisins-là, et du moment où ils ne sont pas aussi à l'abri donc de ces incursions djihadistes, donc il faut toujours garder donc le cap, il faut maintenir le cap. Et c'est l'occasion également donc d'avoir donc beaucoup de pensées pour de nos forces qui sont des forces de défense qui sont déployées dans la zone. Vous savez, je crois que le chef de l'État l'avait dit, il ne faudrait pas qu'on laisse un centimètre carré donc de notre territoire aux mains donc de ces personnes là. Et donc il faut mettre tous les moyens possibles, il faut prendre toutes les dispositions possibles pour que nous arrivons donc à vaincre l'hydre là, à vaincre le mal. Donc, je ne pense pas qu'il y a encore à polémiquer sur ce sujet-là. Ça rentre d'ailleurs dans les prérogatives donc du gouvernement, dans les attributions du gouvernement. Ils l'ont fait, l'Assemblée a entériné. Donc, je crois que le mieux à faire, c'est aujourd'hui inviter également la population à coopérer véritablement donc avec les forces de défense dans la zone. Et donc, pour que nous puissions maintenir encore notre territoire loin quand même de ces gens-là qui, ma foi, j'ai souvent l'habitude de dire, je ne comprends pas cette idéologie-là, parce que lorsque vous défendez une cause, il faudrait que la cause soit noble. Mais lorsque vous venez, vous sortez donc des fusils et vous dégainez et vous tirez sur tout le monde, je ne pense pas quel est quand même le sens donc de cette idéologie-là ou de ce combat. Puisque si vous êtes musulmans, encore que l'islam c'est la paix, vous êtes musulmans, vous arrivez donc dans un marché, vous prenez votre arme, vous tirez sur le monde et parmi peut-être les victimes, il peut y avoir aussi des gens qui prônent la même foi que vous. C'est pourquoi je le dis, j'ai jamais compris cette idéologie là de prendre les armes et de venir tirer sur des gens. Maintenant, si c'est ce qu'ils ont choisi, bon, le Togo aussi a pris ses dispositions. Et je crois que pour l'heure, nous maintenons encore ces personnes loin de notre territoire national.
Abbas, c'est vrai que Isidore parlait de cette coopération que les forces. Sylvestre, bien sûr. Sylvestre parlait de cette coopération que les forces de l'ordre doivent avoir avec la population sur place, bien sûr. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire, même d'ailleurs, pour impliquer plus la population à cette lutte?
Non, il y a toujours des sensibilisations qui ont eu lieu à l'endroit de ces populations. Depuis le temps du général Yak, il allait sur le terrain, il rassemblait les populations pour leur parler de ces infiltrations et de cette collaboration qu'il faut avoir avec les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain. Je pense que si, avec cet état d'urgence qui a été prorogé, cette séance de sensibilisation doit se poursuivre pour que la population soit en contact toujours avec l'FDS pour contribuer à lutter efficacement contre ce fléau qui est en train de ronger ou bien le nord du pays. Donc, de telle sorte que ça n'existe plus. Parce que je pense que s'il veut parler de si c'est des musulmans, je pense que c'est des musulmans parce que c'est des fous. Un musulman ne tue pas comme ça. C'est des fous qui ne pensent pas parce qu'ils vont recruter n'importe où, n'importe comment, et dans les milieux défavorisés pour renforcer leur rang. C'est des fous de Dieu.
On se souvient même d'ailleurs de ce TAT la semaine dernière au niveau du Nigeria où des élèves ont été kidnappés. On se demande, mais c'est à quelle fin?
Ouais, des centaines d'élèves ont été kidnappés, des garçons et des filles qu'ils ont emportés. Ce qui veut dire que c'est pour aller les exploiter à des fins qu'eux-mêmes ils savent faire. Donc aujourd'hui, c'est des fous qu'il faut chercher à maîtriser et à les retrouver. Puisque c'est des gens, lorsque vous dites que vous les avez combattus, ils vont se préparer, c'est comme des fourmis qu'on tue et puis d'autres sortent ailleurs. Quand vous les attaquez, vous dites que vous êtes prêts, vous croisez les doigts ou les bras que vous avez vaincus, vous les avez vaincus, c'est en ce moment qu'ils vont revenir.
Ils ont des ramifications.
Ils ont des ramifications qui vont revenir par force. Vous avez vu que le Burkina Faso, on dit qu'on a neutralisé tel nombre, on a neutralisé le terme lié de choses terroristes, mais dans les mêmes zones, ces gens-là reviennent commettre des actes dans les marchés, dans les écoles, puis pour tuer des innocentes personnes. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit que par rapport à cette situation, la cession de droit qui est ouverte aujourd'hui est une bonne chose pour qu'on puisse accompagner le gouvernement à mettre fin à ce fléau de terrorisme qui est en train de faire ce... Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la campagne électorale. Les campagnes électorales vont s'ouvrir d'un instant à l'autre. Il faut sécuriser cette zone pour que les candidats puissent aussi aller dans ces zones en toute sécurité et en toute sérénité pour mener leur campagne. Parce que si on avait levé cette mesure d'urgence sécuritaire, c'est que les gens auront peur d'aller dans les savanes pour faire la campagne électorale. Donc, et si on n'avait pas pris cette disposition, et le gouvernement n'avait pas eu l'idée de reconduire en demandant à l'Assemblée nationale d'avalider, de lui donner le droit de reconduire, l'autorisation de reconduire cette mesure de sécurité, d'urgence sanitaire, sécuritaire plutôt, on serait aujourd'hui en train d'avoir peur dans des problèmes parce que c'est par le nom ça a commencé. On ne sait pas où ça va venir. On voit même à l'intérieur du pays, vers des choses même à Lomé, ici, il y a des actes de terrorisme qui ont eu lieu où on s'est attaqué à des populations inutilement. À surtout la dernière fois, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si ce n'est pas ces gens de terroristes qui sont en train de se transformer autrement. Donc, c'est des mesures qu'il faut prendre pour sécuriser la région, pour sécuriser la zone, afin que les gens puissent aller faire leur campagne dans de bonnes conditions et en toute sérénité, en toute tranquillité, pour aller au contact des populations sans peur.
Sylvestre, avant que la population ne soit impliquée dans cette lutte, il est très important que cette population ait aussi l'information. Mais on a toujours compris que depuis un temps, le gouvernement togolais a choisi quand même de ne pas communiquer trop sur ces attaques terroristes.
Oui, je crois que bon, c'est une dialectique, hein, c'est une dialectique parce que c'est vrai qu'il faut communiquer, mais il faut savoir aussi communiquer. Vous savez, et lorsque on communique trop aussi sur une situation, ça risque donc de créer une psychose et donc et la panique. Bon, vous savez, avec la panique, ça peut aller aussi dans tous les sens. C'est vrai que le gouvernement a choisi de ne pas trop communiquer sur le souvent aussi sur les FDS qui parfois tombent, hein, donc sur le champ d'honneur et tout. Mais pour l'heure, je crois que il n'est pas aussi assez alarmant, hein, donc la situation dans laquelle nous sommes. Vous avez vu que c'est vrai, entre-temps, certains confrères, même moi, souhaitaient. Hein, on était dans un atelier, même organisé par la HAC. Il y a certains confrères qui avaient souhaité aller au nord du pays, quoi, sur les théâtres, et constater de visu ce qui se fait. Moi, je crois que c'était risqué parce que, vous savez, l'ennemi en soi n'est pas entrailli, c'est pas en fait une guerre conventionnelle, hein, c'est une guerre asymétrique où quelqu'un qui est peut-être habillé comme moi ce matin peut être celui-là qui vient et ne serait-ce qu'avec les armes commettre donc du bordel et retourner donc de l'autre côté de la frontière. Donc si c'était une guerre conventionnelle, on aurait quand même pris des dispositions. Maintenant, là, il y a aujourd'hui des checkpoints un peu partout au nord du pays, ne serait-ce que pour mieux quadriller la zone. Mais le peu qui se dit, hein, le peu qui se dit donc sur la situation aujourd'hui, même en faisant cette émission, c'est une manière de communiquer pour dire que en fait dans la zone, ce n'est pas pour l'heure donc la grande sécurité. Déjà, nous avons communiqué sur le fait que l'état du sanitaire a été prolongé dans la zone. Ça veut dire en réalité que hein, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et donc, il faudrait quand même qu'on redouble donc de vigilance dans la zone. Je crois que déjà avec ces communications, c'est suffisant pour ce qui se fait là. Je crois que les autorités et togolaises, et du moins ceux qui sont aussi dans les secteurs concernés, dans les milieux concernés, font également des sensibilisations au niveau donc des populations. Hein, et à quelle heure il faut sortir, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre. Je crois qu'avec le peu que nous faisons, c'est déjà bon. Maintenant, si on doit être beaucoup plus alarmiste, je pense que ça va créer une véritable psychose dans la zone. Et si ça crée une psychose, ça va aussi déteindre sur l'activité économique dans la zone. Donc, pour l'heure, on peut dire que pour l'instant, le Togo maîtrise la situation. Et donc, je pense qu'avec cela, c'est suffisant pour l'heure, hein, donc de tout ce que nous disons sur la zone. Quoi.
Voilà. D'accord. Abbas, ne pas donner les informations nécessaires sur ces attaques terroristes, est-ce que le gouvernement estime que ça va créer plutôt alors de psychose au niveau alors de la population?
Ce n'est pas toutes les informations qu'on donne. Même au niveau des médias, de la presse, ce ne sont pas toutes les informations qu'on donne.
Mais le souci, c'est que dans d'autres pays, ça se donne comme information.
Ça se donne, mais aujourd'hui, dans d'autres pays, c'est que vous savez comment ce qui se passe là-bas. C'est pour cela que, quand ça a commencé, le gouvernement a dit, ce n'est pas à lui de donner les informations, c'est à l'état-major des forces armées togolaises qui sait qu'est-ce qu'il faut donner comme information. Qu'est-ce qu'il ne faut pas donner comme information sur ces attaques? Et depuis que ça a commencé, c'est que si les informations veulent sortir, c'est à partir de la communication des forces armées, de l'état-major des forces armées togolaises. Ça ne vient pas directement du gouvernement. Donc c'est comme ça que ça s'organise. Parce que le gouvernement, lui, dans son ensemble, ne maîtrise pas ce qui se passe. Ceux qui maîtrisent, c'est ceux qui sont sur le terrain. Et ceux qui sont sur le terrain sont gérés par l'état-major des forces armées togolaises. C'est pour cela qu'on dit que ce n'est pas tout qu'il faut donner pour faire paniquer la population. Ce qu'on a à faire, c'est de descendre, le gouvernement descend sur le terrain, fait la sensibilisation à ces populations-là, qui aident ces terroristes-là à résister. Parce que entre-temps, lorsque le général Yak a dénoncé cette histoire, il a dit, mes frères, vous qui vendez même le carburant frelaté à ces terroristes, vous les aidez à vous tuer vous-même. Vous êtes en train d'entretenir un réseau qui vient commettre des actes criminels sur vous, et sur vos parents et sur vous-même. Parce que quand vous leur vendez du carburant, vous ne savez pas s'ils reviennent, comment ça va finir, mais vous-même vous allez passer. Donc c'est pas parce que vous cherchez de l'argent que vous allez vous permettre d'accompagner, de pactiser avec ce diable-là. C'est des informations-là, des sensibilisations comme ça, il faut aller leur faire. Mais donner toutes les informations, dire qu'aujourd'hui, on a attaqué le camp Nouprouma, on a attaqué ceci, et qu'il y a beaucoup de morts, il y a des soldats, des militaires qui sont tombés, tout ça là, c'est que ça fait peur. Même la population va avoir peur. Je l'ai dit tantôt, si dans ces conditions, nous sommes dans une période, dans un processus où nous allons élire nos députés et nos conseillers régionaux. Si on donne ce genre d'informations, est-ce que les populations et les candidats à ces élections pourront aller dans ces zones pour dire que nous allons venir faire la campagne électorale à votre niveau? Les populations elles-mêmes à qui on veut s'adresser ne vont pas sortir parce que moindre attroupement, on va dire que nous serons attaqués par ces terroristes et nous allons mourir. Et ceux-là qui organisent même ces attroupements ne pourront pas rester là-bas. Donc c'est la sensibilisation. On ne peut pas donner toutes les informations. Les informations qu'il faut donner, je pense qu'au niveau de l'état-major des forces armées, on nous les donne. Et ce qu'il ne faut pas donner, on les gère à leur niveau. Ils les gèrent à leur niveau. Donc ce n'est pas tout qu'on dit.
D'accord, ce n'est pas tout qu'on dit. Il faut une stratégie de communication. Et là, le gouvernement a adopté cette stratégie alors de communication. Alors, nous allons quitter hein, cette question sécuritaire. Nous parlons de ce rapport de la Banque mondiale hein, sur enfin, notre pays, le Togo, bien sûr. Et à la page 5, alors du journal Symphony ce matin, Symphony titre Togo, premier pays africain réformateur en matière d'égalité de sexe. Et dans le chapeau de l'article, je lis ceci, le rapport Women Business and Law 2024, c'est-à-dire Femmes, Entrepreneuriat et Droits du groupe de la Banque mondiale rendu public le 5 mars, a été officiellement lancé à Lomé le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Justement, à travers ce rapport, on voit même d'ailleurs que dans la sous-région, hein, pour ce qui concerne enfin, la politique alors de, sur, qui est basée alors sur le genre, le Togo occupe même la première place hein, pour ce qui concerne alors ce rapport ou cette politique. Alors, Sylvestre, nous pourrons dire que c'est une bonne chose quand nous occupons quand même de bons rangs ainsi.
Non, quand nous occupons de bons rangs, c'est bien. Mais l'autre, je crois que la meilleure des choses, il faudrait quand même que ces genres de répercussions aient quand même une incidence positive hein, sur le reste de la nation ou sur le bas peuple. C'est vrai que nous tous, nous y avions vu la dernière fois hein, Human Business and Law qui dit que le Togo est premier réformateur en ce qui concerne le genre et tout ça. Tout cela, c'est beau parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez un peu le paysage politique, c'est vrai qu'il y a beaucoup donc, de femmes qui occupent donc, des postes de responsabilité ou des postes de décision. Hein, parce que si nous prenons par exemple la primature, c'est une dame qui est là, Madame Victoire Tomega Dogbe qui est là et qui occupe donc c'est un poste de décision. Vous allez au niveau donc du Parlement, c'est également Madame Chantal Djibori Tchégan qui est là.
Deuxième personnalité
du pays, parce qu'aujourd'hui s'il y a vacance du pouvoir, donc c'est elle qui devient donc président donc de facto. À moins que on ne revise donc l'exercice donc de 2005. Alors ça c'est entre parenthèses. Alors donc lorsque vous au-delà donc de Madame Victoire et Togbe et de Madame Tchega, vous prenez aujourd'hui le gouvernement. Il y a beaucoup de femmes hein, qui sont au gouvernement. Même je crois la secrétaire donc de la présidence c'est également une dame, Madame Sandra Johnson.
Ablamba Johnson.
Donc, il y a tellement donc, de femmes aujourd'hui au gouvernement qui occupent donc des postes clés. Maintenant, au-delà de ce tableau que nous venons donc de peindre ensemble, maintenant, au-delà, quel est l'impact réel hein, de ces femmes-là sur la population? J'aurais quand même souhaité qu'avec toutes ces femmes-là, qu'on change un peu de paradigme. Et qu'on puisse dire oui avec l'avènement donc des femmes au niveau de l'exécutif, avec l'avènement donc des femmes au niveau donc des postes de décision. Voilà, on sent donc un grand changement, on sent un impact positif donc sur la République, sur la nation et donc sur l'économie nationale. Mais pour l'instant, je reste encore sur ma soif, je reste encore sur ma faim, parce que je me dis, c'est vrai, elles sont là, mais c'est comme si, bon, ça, rien n'a véritablement changé quand hein, on a véritablement un gouvernement donc, de mastodontes, un gouvernement donc, de machos hein, qui sont là, bon, avec les femmes, bon, c'est comme Pierre et Paul, quoi. On a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Et puis bon, voilà à quoi la vie continue.
Abbas, est-ce que vous êtes aussi sur votre soif par rapport à cette gestion, ou du moins à ces postes de décision, même d'ailleurs, qu'on accorde plus alors aux femmes?
Non, bon, je ne parle pas de soif ou bien de postes de décision. Mais il faut reconnaître, c'est par rapport à ce classement, il faut reconnaître que c'est depuis la base que le gouvernement a commencé par poser les balises pour que les femmes aussi puissent être beaucoup plus impliquées dans la gestion des femmes. Lorsque vous prenez d'abord au niveau de l'école primaire, préscolaire, jusqu'à arriver au niveau des lycées, il y a les femmes qui sont beaucoup plus privilégiées par rapport au paiement des frais scolaires, ce qui est motivant au niveau des parents. Parce que avant, lorsque vous prenez 10 filles dans l'établissement scolaire qui commencent le primaire ensemble et 10 garçons dans le même établissement, jusqu'au niveau de leur évolution, arrivé au CM2, pour le CPD, on n'a que trois filles. Et le reste, les 10 garçons peuvent poursuivre jusqu'au lycée, tout ça là. Aujourd'hui, on a motivé les femmes. Ça fait que pour les frais scolaires, les parents, les frais scolaires sont réduits, ou bien il n'y en a même pas totalement pour les jeunes filles. Et lorsque vous évoluez, aujourd'hui, quand vous voyez dans les écoles, dans les établissements, jusqu'à l'université, vous allez pouvoir comprendre que les filles sont plus nombreuses que les garçons. Ça fait que tout le monde s'implique davantage. Et aujourd'hui, quand on parle du genre, c'est ce genre qu'on est en train de voir où les filles veulent se mettre sur le même pied d'égalité que les hommes parce qu'elles ont le même niveau d'études avec les garçons. Et l'évolution allait ainsi jusqu'à ce qu'on ait au niveau des institutions de la République des femmes qui sont beaucoup plus impliquées. Et deuxièmement, c'est qu'au niveau des institutions de la République, par rapport aux députés, aux législatives et aux régionales, on a vu que beaucoup d'avantages sont accordés aux femmes qu'aux hommes. Maintenant, il faut chercher à les encourager à beaucoup s'impliquer parce qu'on leur donne des facilités au niveau des institutions de la République comme le Parlement. Mais il y a certains qui ont peur d'aller déposer leur candidature, de se faire représenter. Il y a même dans des partis politiques, il y a des problèmes à retrouver même des femmes pour équilibrer. On nous dira qu'il y a certains partis qui ont beaucoup de femmes, qui ont positionné 8 femmes, qui ont... Ce n'est pas le fait de pousser, mais c'est d'avoir pouvoir positionner des femmes-là qui vont arriver à faire quelque chose, à mettre une tache d'huile sur ce qu'elles ont fait comme candidate ou bien comme députée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a vu, les choses sont en train d'évoluer, paramètre par paramètre, mais il faudrait que ces femmes-là puissent nous donner le temps de nous prouver qu'elles sont capables de faire quelque chose. Parce que Sylvestre a dit tout à l'heure, quel impact ces femmes-là nous donnent lorsqu'elles sont beaucoup plus représentées. Parce qu'il y a des associations de femmes que je vois qui vont faire des forages dans des villages. C'est ça qu'on veut. S'il y a de ces impacts sur la population, j'espère que cette portion de femmes qui est en train de prendre au moins un haut niveau plus que les hommes et qui veut s'égaler aux hommes, ça va nous permettre aussi de construire bien notre pays et d'aider notre pays. Quand le pays donne des facilités, il faudrait que ces facilités-là puissent être bénéfiques à la nation.
D'accord. Chers confrères, nous avons un impératif au niveau de la technique. Nous l'observons et nous revenons.
Légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, Sikavi, format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
Le gouvernement lance le processus d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle avec la CNSS. Vous êtes travailleur affilié à la CNSS,
titulaire d'une pension auprès de la CNSS, travailleur indépendant, opérateur de l'économie informelle ou agricole, ministre de culte ou toute autre personne exerçant une activité non salariée, l'assurance maladie universelle vous offre une couverture jusqu'à 80% sur les actes de santé et de médicaments. Avec l'assurance maladie universelle de la CNSS, se soigner n'est plus un souci. Pour toute information, appelez le 83 23. La CNSS, c'est un pour tous et tous pour un.
Mais où sont passés tes employés?
Arriérer le salaire cada mois. Ils sont partis.
Mais qu'est-ce qui t'est arrivé?
Mon entreprise a été exclue des procédures de passation des marchés pour une période de 5 ans.
5 ans d'exclusion?
Oui.
Et pourquoi?
J'ai introduit une fausse attestation de bonne foi d'exécution. Et celle-ci a été décelée au moment des évaluations des offres. Le comité de règlement des différends de l'ARCOP a été saisi, ce qui a valu à l'entreprise cette exclusion.
Vraiment désolé, mon frère.
Apprenez de mes erreurs.
Avec l'ARCOP, on avance dans la transparence.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse de ce mercredi. Maintenant, nous allons prendre rapidement le plat de résistant. Alors, de cette émission, Sylvestre, c'est vous qui nous donnez vraiment ce plat de résistance. Et vous écrivez à la une de votre journal en parlant des élections législatives et régionales qui nous attendent déjà le 20 avril prochain. Vous écrivez « Choc des générations, élections 2024, la bataille sera du rude ». Finalement, vous avez déjà le tableau alors de ceux qui iront à cette bataille pour que ça soit rude?
Oui, en réalité, vous savez, nous, en tant que journalistes, on est souvent dans un certain nombre de confidences. Donc, aujourd'hui, nous sommes quand même, nous avons quelques têtes, nous savons qu'il y a quelques têtes qui iront donc à ces élections. Bon, en attendant que la CENI ne puisse rendre cela officiel, donc nous nous gardons et quand même de donner des noms. Et puis vous savez que après donc le dépôt, il faudrait également que le ministère de l'administration territoriale puisse vérifier donc la conformité donc ces candidatures avec tout les tests, puisqu'il est dit ceux dont les partis ne sont pas en règle avec le ministère et tout ça, vous verrez que c'est un risque donc d'être recalé. Donc pour l'instant, nous gardons donc de donner des noms. Mais lorsque vous prenez la une de notre parution de ce matin, vous verrez que la plupart de ceux qui sont donc ce sont quand même des gens qu'on retrouve très souvent donc sur les médias, dans les débats politiques. Ce sont quand même des gens qui animent véritablement la vie politique. Et donc si vous prenez par exemple ceux que nous appelons les vieux de la vieille, c'est ceux qui ont quand même une certaine expérience donc des élections au Togo et qui sont sur la scène politique depuis des lustres. Aujourd'hui, à côté de ceux-là, il y a quand même ceux que nous appelons les jeunes pousses de la politique togolaise, donc ceux qui arrivent, ceux qui émergent, et dont certains feront donc leur première expérience électorale avec ces élections que nous aurons donc le 20 avril, le 12 scrutin et législatif et régional. Maintenant, ceux-là sont beaucoup plus ambitieux parce que nous sommes dans les confidences de certains qui disent « Nous allons donc à ces élections pour devenir chef de file de l'opposition. » Voyez-vous, ça veut dire qu'ils sont ambitieux et veulent véritablement donc reprendre sinon la situation en main. C'est pourquoi nous parlons donc déjà de choc de génération, parce que ils arrivent très ambitieux, ils veulent impacter donc la vie politique, donc ils veulent prendre donc manager donc le gouvernail donc de la vie politique. Maintenant, l'autre constat, c'est que nous assistons aussi depuis les élections de 2019 à une flambée donc de candidatures indépendantes. Et ça aussi, je crois que avec les élections régionales législatives, nous aurons également toute une panoplie, une série donc de candidatures donc de candidats indépendants, parce qu'il y a beaucoup qui peut-être ne se retrouvent pas dans les idéaux de certains partis, beaucoup qui ont des soucis donc avec leur parti iront aussi à ces élections avec des candidatures en candidat et indépendant. Donc voilà. Et puis l'autre phénomène, c'est que avec les élections de 2018, vous savez, beaucoup ont tellement donc de clichés sur ces élections-là, et que certains sont nommés, désignés à tort ou à raison, donc de députés nommés, de députaillons, de députés de lait et tout ça. Donc ceux-là aussi vont vouloir reprendre donc le flambeau et prouver donc à ceux qui les qualifiaient de députés de lait, leur prouver qu'ils ont quand même une assise nationale, ils ont donc une base électorale solide et qu'ils sont capables de revenir, ne serait-ce que pour faire taire à ceux qui pensaient qu'ils étaient nommés. Voyez-vous, c'est pourquoi nous disons que en fait c'est la bataille sera rude, parce que chacun veut aujourd'hui se battre pour être présent à l'hémicycle pour la 7e législature. Et donc à côté, il y a aussi des indépendants, il y a aussi des politiques, il y a des vieux de la vieille, il y a donc la jeune pousse de politique, les jeunes donc qui viennent. Donc ce serait véritablement donc un grand combat, un grand duel, pour ne pas dire un beau derby. Donc nous sommes là pour observer tout cela, mais ce que nous souhaitons, c'est que le jeu soit clair, que celui qui gagne soit celui qui est du moins se proclamer. Le chef de l'État même l'a dit la dernière fois qu'il ne faudrait pas céder donc aux provocations et tout. Je crois que nous l'avons également dit, si ça se gâte, c'est nous qui serons responsables. Que tout ça se passe dans les règles de l'art, et que quand la fin, que le meilleur gagne, et puis pour que la vie politique puisse continuer.
Abbas, même si le combat sera rude, tel que Sylvestre l'écrit, c'est au peuple maintenant de désigner, ou du moins de choisir, la personne ou les personnes quand même dignes, avec également des projets de société qu'il faut pour que du moins on arrive à avoir une Assemblée nationale digne de son nom.
Oui, en fait c'est le peuple qui désigne, c'est le peuple qui élit. Mais c'est le peuple, devant le peuple qu'on se présente pour dire « Élisez-moi, je vais vous représenter valablement à l'Assemblée nationale ». Ça dépend du langage. Ça dépend de ce que vous allez dire à ces populations. Ça dépend aussi de vos comportements envers ces populations pour qu'on puisse vous élire. Vous n'allez pas vous présenter en arrogant ou en telle personne pour dire que « faites-moi ceci, faites-moi cela » ou à leur faire des promesses démagogiques. Des promesses que vous ne pouvez même pas faire à ce peuple, vous les faites. Vous savez ce que la mission des députés, qu'est-ce que le député peut faire? Qu'est-ce qu'il fait, le député? Est-ce que le député est là pour construire les routes? Ou le député est là pour mettre l'électricité dans le pays? S'il arrive, il vous dit, moi, et vous, si vous me lisez, je vais vous faire construire, je vais construire une route comme ça, il faut savoir que c'est un démagogue. Parce qu'il y a certaines situations que vous devez comprendre. La population est mature maintenant. Quand quelqu'un vient avec ses promesses démagogiques, la population va dire que le monsieur a été un menteur. Parce qu'il y a plusieurs années que les gens ont commencé par faire le vote. Et ce vote a instruit beaucoup de personnes. Des gens sont allés même jusqu'à promettre à faire beaucoup de choses. Mais après, lorsqu'ils sont élus, ils reviennent s'asseoir dans la capitale. Ils ne retournent même pas voir les populations qui les ont élus là, ici à l'Assemblée nationale. Et ils ne vont là que lorsqu'il y a des funérailles peut-être à faire. Donc, ils ne vont même pas aller recueillir les besoins de cette population pour venir les exprimer au niveau de l'Assemblée nationale pour faire des propositions de loi. Aujourd'hui, c'est la population qui élit les parlementaires. Et cette population qui est mature ne va jamais se laisser embobiner par des promesses démagogiques.
D'accord. Alors, Sylvestre, est-ce que vous avez aussi l'impression que cette population est mature aujourd'hui, a choisi les choses selon surtout des critères bien définis, ou bien qu'il n'y aura même plus alors d'achat de conscience comme cela a été constaté même d'ailleurs de par le passé?
Oui, si vous voyez dans notre parution aujourd'hui, nous avons même fait un article où nous disons, escutant 2020, pour qui voter. Aujourd'hui, c'est-à-dire, le constat est c'est que pendant des années, nous sommes aussi restés dans un vote identitaire, et parce que mon frère est dans tel parti et que je dois le voter pour lui. Et tout. Non, je crois qu'il faudrait qu'on puisse dépasser, et du moins ça. Ces pôles-là, il faudrait qu'on puisse voter celui qu'on sent capable véritablement donc de changer quelque chose.
Pas sous le coup de l'émotion.
Pas sous le coup de l'émotion. La dernière fois, je je disais juste, c'est une caricature qu'au moment où les Togolais ont fait, donc au niveau donc de l'actuel de la législature actuelle, au moment où les Togolais ont fait au Parlement, ont voté une loi sur le nucléaire. Vous voyez, c'est juste une caricature. Hein. Les Togolais disent qu'ils ont faim. Mais au niveau des députés, il n'y a pas une proposition de loi, ne serait-ce pour alléger un certain nombre de choses, mais on vote pour le nucléaire. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a une rupture entre le peuple donc, et ceux qui, normalement, sont donc des élus du peuple. Et l'autre problème, c'est que une fois que nos députés viennent au Parlement, ils deviennent donc des députés militants que des députés qu'un élu de la nation. Voyez-vous, c'est pourquoi ce serait donc un événement pour lorsque on nous dit par exemple que un député de UNI ou un député donc de c'est pas bon, peut-être nous prenons juste, c'est vrai que les choses, les gens ne sont pas, nous n'avons pas la même configuration actuelle. C'est-à-dire que qu'un député de UNI, un député donc de l'ANC ou un député donc de c'est pas du CAR, hein, ou Adji par exemple, se sont retrouvés pour faire une proposition de loi. Est-ce que vous avez une fois vu cela au cours donc des différentes législatures? Que non. Or, en réalité, quand les gens viennent, les gens ne font que la politique donc de leur parti. C'est-à-dire que c'est parce que c'est UNI qui porte donc le gouvernement, qui porte donc le projet de loi, et que comme nous sommes donc des militants donc du parti au pouvoir, nous sommes et automatiquement on doit voter pour. Ou s'il faut voter contre, nous devons voter contre. Il y a personne qui peut dire, ben c'est vrai que c'est mon parti. Hein, c'est un parti uni, c'est un parti de gouvernement. C'est vrai que c'est mon parti qui a fait donc ce projet de loi. Mais nous ne nous retrouvons pas et donc moi je vote contre. Il y a pas ça. Or, dans beaucoup de démocraties, on le voit. En France, par exemple, donc le En Marche peut faire donc une proposition de loi, mais donc les députés donc qui se reconnaissent dans ce mouvement vont voter contre, malgré qu'il y a donc des au niveau donc du gouvernement, on demande à voter pour, il y a certains qui vont voter contre et justifier cela. Mais ici, nous avons trop de députés militants, donc il faudrait également que les gens choisissent donc des personnes qui incarnent l'aspiration profonde donc de leur population. Je crois qu'Abbas a soulevé un élément important. Lorsque les gens sont votés dans leur circonscription, une fois que ils sont proclamés députés, ils viennent donc faire base à Lomé. Et ne vont que là, ne vont que dans les villages. Et tout. Il n'y a pas souvent donc des rencontres entre leur population, entre la base, entre leur population. Écoutez donc les aspirations profondes des populations. S'il ne peut pas le porter seul, allez trouver donc les députés donc d'autres courants politiques et faire une proposition de loi. Et que vous voyez, c'est une proposition au niveau donc également de nos parlements, bon, les différents que nous avions eu les mandatures, les différentes législatures. C'est rare de voir donc des propositions de loi. Il n'y a souvent que des projets de loi. Voyez-vous, il y a un député, je crois, il y a un groupe, le groupe Net PDP. Et j'ai eu dit que pour la sixième législature, ils ont fait 4 propositions de loi. C'est vrai, c'est bien, mais je trouve que c'est insuffisant. Ils ont fait 4 propositions de loi, c'est bien, mais c'est insuffisant pour une mandature pour 5 années. 4 propositions de loi, à raison peut-être de 0, quelque chose par an. Je crois que c'est bien. Ils ont au moins essayé quelque chose, mais c'est insuffisant. Donc, si les députés peuvent agir aujourd'hui plus de propositions de loi, et je crois que on sortira donc de ce carcan là, parce que j'ai l'impression que au niveau donc du pays, ça ne décolle pas.
D'accord.
J'ai l'impression.
D'accord. Alors Abbas, il nous reste quelques secondes pour clôturer ce débat, mais j'aimerais qu'on parle de la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo qui a été investi tout récemment à être candidat encore pour la présidentielle alors de 2025. À 79 ans, bien sûr, il a été investi pour être candidat pour cette présidentielle, mais est-ce que c'est opportun?
Vous voyez, je ne sais pas. Hein. Laurent Gbagbo ne pourra pas aller aux élections.
Oh, il n'est même pas. Justement, il a été radié sur la liste électorale.
Il n'est pas sur la liste électorale et il est condamné. Il est sous le coup de la condamnation, ce qui veut dire qu'il a perdu ses droits civiques ou politiques. Je n'ai pas compris pourquoi son parti veut coûte coûte le mettre comme candidat aux prochaines élections. Parce qu'il y a aussi. D'autres, il faut aussi assurer la relève. C'est ce qu'on a toujours dit, dénoncé dans ces situations. Comment est-ce qu'un chef de parti politique, il est là, vieillissant, et il sait qu'il ne prépare même pas quelqu'un dans le parti pour le succéder. Et toujours, il allait faire la prison, revenir, et on dit que c'est lui qui sera candidat, alors que tout le monde sait qu'il ne pourra même pas être candidat, parce qu'il n'est même pas inscrit sur la liste électorale. Il est sous le coup d'une condamnation.
Donc on pense que ce sont des actes politiques et qu'on peut facilement revenir là-dessus.
C'est difficile. C'est difficile. On ne peut pas le faire comme ça. La Cour constitutionnelle, si la Cour constitutionnelle veut travailler normalement, on ne peut même pas... Parce que l'amnistie, il n'a pas été amnistié. C'est une grâce présidentielle qui a eu lieu. Et la grâce n'efface même pas les condamnations.
Les condamnations.
La grâce n'efface pas. Son parti devait le savoir. Et mettre quelqu'un pour représenter le parti au lieu de prendre Laurent Gbagbo. D'abord, quand il va revenir là, lorsque ce qu'il a fait, est-ce qu'il va pouvoir encore le faire?
D'accord. Et Sylvestre, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un jeune dans le parti de Laurent Gbagbo, pardon, et PPACI, pour que du moins un jeune représente plus le parti à la prochaine présidentielle?
Non, je crois que naturellement, celui qui devait quand même remplacer Laurent Gbagbo, c'était Afin Guessant. Mais vous avez vu qu'il n'y a pas eu cette entente-là entre lui pendant des années. C'est ce qui a d'ailleurs contraint Laurent Gbagbo à aller créer son propre parti, le PPACI, puisque c'est un parti aussi panafricain. Il y aura dans d'autres... Et dans d'autres pays aussi. Maintenant, c'est vrai que Laurent Gbagbo aujourd'hui est inéligible. Bon, je ne sais pas quel est donc ce symbolisme-là de le désigner comme candidat donc du parti pour les élections prochaines.
Donc on parle de provocation.
Non, écoutez, ça peut être également une manière donc de forcer aussi la main donc au gouvernement. On peut un bon matin aller à une amnistie générale puisqu'ils sont aussi dans une logique donc de réconciliation nationale. On peut aussi, un beau matin, on peut aller à une amnistie générale et puis là, il retrouve donc tous ses droits et civiques donc pour être candidat. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi, vous savez, les politiques sont souvent donc dans le secret des dieux, dans le couloir. Bon, s'il a fait sûrement que il compte sur quelque chose, hein, on a souvent l'habitude de dire que lorsque un aveugle te dit, il va te lancer une pièce, il est sûr et certain qu'il a déjà donc un pied sur la pierre qu'il veut lancer. Donc espérons bon que peut-être soit c'est un symbolisme, soit il sait ce qu'il fait et puis bon, peut-être que la situation peut décanter d'un jour à l'autre.
D'accord, merci beaucoup cher confrère. Nous sommes déjà à midi, passé de 3 minutes. Nous allons observer une pause au niveau de la technique et nous reviendrons pour donner la parole à nos auditeurs.
Ceci est un message important à l'endroit des Togolais et Togolaises de Lomé Assimkassé et de la diaspora. La situation des enfants et des jeunes atteints de déficience auditive dans notre pays, le Togo, nous interpelle. Soit un total de 900 000 personnes, selon l'ONU, sur l'ensemble de la population. Cet handicap conduit à une marginalisation dans leur propre environnement de naissance. Plusieurs d'entre eux ne vont pas à l'école et peu sont ceux qui arrivent à terminer le cours secondaire parce qu'ils viennent de familles en difficulté. C'est pourquoi ces enfants ont besoin de soutien. Pour leur permettre de se faire consulter, de bénéficier d'un suivi et d'être équipés d'appareils pouvant corriger ce déficit, l'association Enfants Surdités à Venir lance un appel compatissant à toutes les bonnes volontés de soutenir ces actions de prise en charge en participant à cette collecte de fonds. Pour faire vos dons via Timoni 92 71 80 10, Flouze 98 69 18 18, virement bancaire au nom de l'association, numéro de compte 007 10 49. 960005, domicilié à la BOA et EcoBank, compte PayPal 141 154 647 001. Une soirée de bienfaisance est organisée ce samedi 23 mars à 19h à l'hôtel Onomo avec des artistes de haut niveau, uniquement sur invitation. Donnons de l'espoir et de l'avenir à ces enfants, car tant que la vie continue, tout peut recommencer. Nous contactez Association Enfants Surdités à Venir, plus 228 70 41 67 79, Lomé.
vous avez des problèmes de climatisation dans votre voiture et vous êtes à Lomé, appelez Baya Climatisation Auto. Ce sont des spécialistes en climatisation auto. Ils diagnostiquent, réparent et rechargent ta climatisation en moins d'une heure. Vous avez construit une maison et vous voulez installer de la climatisation et faire aussi leur maintenance, appelez Baya Climatisation. Vous payez trop cher votre électricité et vous voulez faire des économies, appelez Baya Climatisation. Votre congélateur ou frigidaire ne fonctionne plus, appelez Baya Climatisation. Baya Climatisation, boulevard Jean-Paul II, en face du stade de Kégué. Téléphone 70 23 88 88 ou alors 97 77 88 88.
Tu es femme, entrepreneur et tu as un projet ou une idée dans les domaines de l'agriculture, du changement climatique, des énergies renouvelables, de la gestion de l'eau, des déchets ou du recyclage et des solutions bio en général. Le programme Women Entrepreneurship for Africa de la Fondation Tony et Lumelu t'attend. Soumets ton idée de projet avec possibilité de gagner un financement de 5 000 $. Pour postuler, rends-toi sur www.tonyetlumelufoundation.org/women. Women Entrepreneurship for Africa. Les candidatures seront closes le 31 mars 2024.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous le savez très bien. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 74 91 36 63 75 pour participer au débat de ce matin. 22 21 33 74. Premier auditeur qui se signale. Allô?
Oui.
Bonjour. Bonjour. Comment vous allez?
Oui,
Pélé, allez-y.
Ok, je pense que pour la stratégie de communication du gouvernement et de l'Assemblée aussi de l'État du jeu, ça semble être un coup d'état électoral. Parce que je ne sais pas comment les candidats vont être à l'aise dans cette ville-là. Et au moment où je pense, on sait comment les candidats et les membres qui vont en place RPC circule avec le 4-4 et avec le sécurité. Qu'en aura-t-il pour les candidats de l'opposition? Et je pense que ce niveau-là, il faut qu'on revoie un peu bien la copie pour que le jeu soit équilibré. Et en deuxième position, je voudrais parler de le rang que le gouvernement a occupé et que vous parliez, quoi. Je ne sais pas de quel rang. Il y a beaucoup de femmes dans le gouvernement, dans les institutions.
Et c'est un rapport de la Banque mondiale.
Un rapport de la Banque mondiale, encore. Il y a beaucoup de femmes. Quelles sont les retombées? Il y a beaucoup de femmes dans le gouvernement, dont les femmes sont attaquées. Quelles sont les retombées? C'est un peu comme l'eau. C'est un peu comme la population. On a compris dans ce pays, en 2017, comment le Togo a été choisi. Le pays le pays qui a été le plus visité dans le monde entier, le deuxième dans le monde, malgré qu'en 2017, il y avait tout ce qu'on a fait comme la sortie des pays précédents. Donc, ça rend des choses, en fait, c'est des bonnes choses. Ça rend dans l'intérêt du pays, c'est des bonnes choses. Maintenant, c'est comme copie quand on dit que le Togo est le pays le plus malheureux de la société. C'est-à-dire, c'est dans les faits qui sont corrigés. Qu'est-ce qu'on corrige dans ça? On est meilleur, mais quand on a échoué, qu'est-ce qu'on corrige?
D'accord, merci beaucoup Pélé. 22 21 33 114 91 36 63 75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler et participer au débat de ce matin. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Allô, bonjour Canal FM.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, merci.
S'il vous plaît, le nom c'est...
Le nom, c'est Nestor, que j'appelle de Agoué.
Nestor d'Agoué, allez-y, Nestor.
Merci. Je me permets d'intervenir dans cette émission que j'apprécie particulièrement.
Merci beaucoup.
Alors, pourquoi je pense que la jeunesse africaine s'intéresse à la politique? Alors, je me permets d'intervenir premièrement pour féliciter le gouvernement pour la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire
Lorsque j'écoute les informations sur les chaînes internationales au Burkina Faso, au Nigeria, on ne peut ne pas dire merci à RDS pour le travail accompli. En ce qui concerne le rapport, cela dépend de la position où on se trouve à voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le ministre a dit lors de l'émission Appel sur la qualité de la semaine passée, a dit clairement que les chiffres sont faux par rapport à de nombreux rapports des institutions internationales. Et pour finir, pour les législatives, ce qui se passe dans les jeux de l'art, c'est que le meilleur gagne, comme l'a dit un journaliste au plateau. Pas de semblant de transparence. Merci, Canal FM.
Merci beaucoup, Nestor, pour votre intervention. 22 21 33 74 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir aujourd'hui au Club de la Presse. 22 21 33 74. Allô?
Oui, bonsoir, monsieur Pascal.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Oui, bonjour. Oui, je vais bien, c'est bon.
Excusez-moi,
je salue le plateau. Je me nomme Benoît, je vous appelle Dagoué.
Oui, Benoît Dagoué. Benoît, allez-y.
Et moi, je voulais parler au niveau, en ce qui concerne les élections. Vous ne voyez pas que c'est trop serré. Tout d'abord, si on me dit les élections aux États-Unis, je pense que c'est le 4 novembre ou le 4 janvier de l'autre année. Mais au Togo, on a attendu 6 semaines, 7 semaines avant de donner la date. Et la portion est levée. Je pense que le parti Unir a planifié, selon moi. Il a tout planifié. Il sait quand jouer, quand gagner, là où il va gagner, là où il va perdre. Je demande, c'est pour terminer, le chef de l'État, son ancien forme, de revoir des élections. Surtout pour régional, là. On n'a pas d'argent. Il manque d'eau. Il y a des laissages. Vous nous dites que c'est manque d'argent. Mais nous avons l'argent pour organiser nous-mêmes une élection. Ça, je pense que ça va mal. Merci. Bon appétit.
Merci beaucoup. Bon appétit aussi à vous, Benoît, depuis Agoué, 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir dans l'émission Club de la Presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Yamavo. Voilà. Yamavo, allez-y.
Oui, comme le dit les prédécesseurs, on avait l'habitude de dire le chien aboie, la caravane passe. Et la caravane ici, les caravanes sont nombreux, le peuple. Mais ici, c'est le chien à bois, les 4x4 passent. Je vous dis, la législature, là, c'est pourquoi on l'a prolongé, c'est pour ce job-là. Sinon, dans les pays démocratiques, on sait qu'à telle date, il doit avoir telle élection, telle élection, telle élection. Rien n'empêchait ce gouvernement d'organiser les élections. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas légitimes. Et s'ils organisaient les élections, il n'y aura pas les députés dont les gens appellent les députés moutons, pour voter les lois à leur volonté contre le peuple. Quelqu'un l'a dit, ils n'ont pas pensé à voter les lois pour éradiquer la famille. Ils ont voté les lois pour les nucléaires. On prend santé universelle. Il n'y a pas d'escanner, il n'y a pas des hôpitaux. Les chirurgiens ont commencé par s'inquiéter comment ils vont prendre en charge les malades. Ben, on ne pense pas à ça. On pense aux 4x4 à acheter. Vous voyez? Donc, l'opposition aussi plaide le franc. Je m'aligne derrière les journalistes qui le disent souvent. Vous savez, dans un État où il n'y a pas encore la démocratie, au lieu de rester unis pour faire face à ceux-là, dans ce macro, vous faites la guerre. Moi, en tout cas, je m'alignerai derrière, même si c'est 2-3 partis politiques qui vont faire la coalition et qui sont représentatifs du Nord aussi, pour qu'on puisse comprendre le mobile de ce qui se passe réellement dans le Nord. J'ai eu entendre une fois, on a dit que l'État allait payer à raison de 200 000 par tête de au Burkina. Moi, j'ai dit, ouf, les gens de la population du Nord vont un peu respirer. Mais patatras, on prolonge encore de 12 mois. Et ça veut dire que nos confrères du Nord sont toujours menacés. Le problème n'est pas encore réglé. Ou bien qu'en est-il des problèmes réels parce qu'on avait enfermé une femme d'avoir parlé de ça? Quel est le problème réel? Bon, on nous dira qu'on ne veut pas communiquer. Mais si on ne change pas ce gouvernement, est-ce qu'on aura les vraies informations? Merci.
Nyamavo, merci beaucoup. 22-21-33-114.
Allô? Allô, bonjour, Canal FM.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, c'est Karim Le Tassiman.
Ah, Karim Le Tassiman. Allez-y, Karim.
Ok, je salue Sylvain. Je dis, hein, on veut plus de... On connaît des députés qui sont élus, les journalistes. C'est à Lomé, ils ont resté jusqu'à ils ont fait 5 ans. Ils n'ont jamais mis pied au village, là où on les a votés. Parce qu'on n'a pas besoin d'accueillir le nom de quelqu'un sur cette antenne, parce qu'on a peur. On ne veut plus ces députés. On demande pardon, parti unique. Si vous allez nous envoyer des députés, envoyez des gens qui sont capables de nous aider.
Non, je pense que c'est à vous de choisir quand même les députés qui peuvent vous aider.
Non. Nous, on ne choisit pas. On nous envoie de voter. On nous envoie de voter. C'est tout. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des députés qui ont fait 5 ans, ils n'ont jamais mis pied chez nous. Rien, ils nous ont rien donné. Et je salue le maire d'Atakpamé et le maire de Bleuilly pour le travail qu'ils font pour leur population. Merci.
Merci beaucoup, Karim. 22-21-33-114-91-36-33-115. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
C'est Nyamavo qui revient.
Oui, Nyamavo, allez-y.
Le précédent m'a rappelé une chose. J'étais dans le Nord la dernière fois, la priorité était criarde. Et vous voyez, c'est les gens qu'on impose de voter, or ils ne font rien. Et vous voyez, quand une fois voté, ils vont y mettre une grande bâtisse là-bas, ils laissent ça aux toits d'Alénier, ils viennent rester ici parce qu'ils ont peur des audiences. Parce que quand tu rentres là-bas maintenant, demandez-vous, vous descendez, les gens viennent, les jeunes comme ça, ils viennent vous demander de l'argent. La pauvreté criade. C'est pourquoi ils fuient la localité dès qu'ils sont votés. Donc, franchement, que le Togolais pense autrement, pour que on change la donne. Ceux qui étaient là, on les votait. Vous allez voir que les écoles qui sont faites en couleur unie, la dernière fois, on disait que les élèves sont allés aux espoirs de 40 quand on les renvoyait. Et les écoles, déjà, ça fausse le pas. Parce que le bureau de vote est déjà à l'effigie d'un parti. Or, est-ce que ce sont les écoles nationales ou bien ce sont les écoles unies? On ne comprend plus rien. Donc, ça, c'est déjà faussé. Il faut que les choses, la population passe autrement pour que leur avenir soit pris en compte par la vraie législature.
D'accord. Merci beaucoup, Nyamavo. 22-21-33-114-91-36-63-75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse et réagir hein, par rapport au sujet débattu ici au Club de la Presse. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Bonjour, Papa Sibiti. Comment vous allez?
Ça va. Bonjour à tout le plateau.
Bonjour.
Vous savez, ce qui est important, c'est l'intérêt du peuple. Le président de la République, moi, je le remercie pour le Nord, les militaires qu'il met et comment dire, tout ce qu'il fait pour qu'il soit bien et que la population du Nord soit bien protégée. Deuxièmement, les députés, nous les votons là. Quand ils vont, c'est leur loi. Les populations ne vivent pas des lois. Qu'est-ce qu'ils font pour le peuple? Les fonctionnaires, les journalistes, les commerçants. Au lieu d'aller nous faire les deux, quand le gouvernement ne fait pas, quel est l'avantage qu'ils nous donnent? Donner 5%, 10%, ils doivent le faire. Et je reviens encore, pendant que nous parlons du délestage, vous voyez, nous sommes là. Je pense que les gens là, ils se moquent de nous. Quand plus vous parlez, plus ils accentuent. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti. Je pense qu'il est le dernier auditeur hein, pour les manifestations téléphoniques. Alors, pour le compte de cette émission d'aujourd'hui, bien sûr, nous revenons alors en plateau. Sylvestre, vous avez écouté les uns et les autres alors sur leur appréciation des sujets débattus ici au Club de la Presse. Quelle est, vous, votre réaction?
Non, je vais prendre par le dernier, Papa Sibiti, qui est revenu sur le délestage que nous subissons, hein, depuis plus de 2 mois maintenant, ou 2 mois environ. Et entre-temps, nous avions dit qu'il y aura amélioration.
Non, puis, mais c'est ce qui a été annoncé, c'est la société qui nous a annoncé.
Qu'il y aura amélioration, et puis bon, je crois que c'est les jeunes de l'Internet qui disaient et bim, quoi, voilà quoi. Ça sort donc de l'ordinaire. Hein, on vous coupe à 8 heures. Il faut attendre jusqu'à 18h30 parfois. C'est ce que j'ai subi le mardi dernier, si bien que je rentrais autour donc de passe à 0h parce qu'il fallait boucler. On coupe à 8h, c'est au-delà de 18h hein, qu'on donnait tout ça. Je crois qu'il faudrait qu'on trouve rapidement donc une solution à ce délestage-là. Ceux qui doivent avoir la suite, ils n'ont qu'à payer, surtout les collectivités. Je crois qu'il y a une note qui a fuité, qui circulait sur les réseaux sociaux depuis. Ceux qui doivent avoir la suite, payer, afin que la suite aussi puisse aller honorer ses engagements vis-à-vis donc de ses fournisseurs pour qu'on sorte quand même de cette situation là, franchement, et ça ne nous honore pas. Je crois que je garde ici la parole, si vous voulez, pour revenir sur un sujet qui défait la chronique sur les réseaux sociaux en ce qui concerne donc un écrit donc d'un confrère sur la polyandrie, et depuis nous avons eu vent que le confrère est souvent donc face à plusieurs à des menaces parce que son numéro est publié sur les réseaux sociaux et le confrère est véritablement menacé, hein, livré donc à la verdict populaire parce que il a couvert donc une activité où il a pris son angle et il a écrit donc l'article, mais depuis parce que certains donc ont pris quand même ce vilain plaisir là de partager son numéro avec son contact sur les réseaux sociaux, et donc il fait face à beaucoup de menaces. Je crois qu'il faut raison garder. Ce n'est pas parce que les journalistes sont allés donc ils ont couvert une activité que eux tous doivent regarder dans la même direction. Dans le jargon, nous disons que chacun choisit son angle. Il a choisi son angle et puis il a publié. Et du moment où ceux qui l'article ne disent pas que ce ne sont pas quand même les termes qu'ils ont prononcé. Si du moment où ils reconnaissent que le monsieur ou le journaliste est resté fidèle aux communications, aux dires, je ne vois pas pourquoi est-ce que on laisse quand même ce journaliste-là et on livre ce journaliste-là à vindicte populaire. Donc il faudrait que nous puissions raison garder dans ce pays. C'est ce qui est important.
Merci beaucoup, Sylvestre. Abbas.
Oui, je voulais aussi reprendre par la société. Les dettes que les gens ont accumulées au niveau de la société qui donnent des problèmes de trésorerie à la société, également à Togocom et à la T2, les établissements publics administratifs, que le trésorier général a dit que c'est elles qui sont à la base de cette situation. Ils n'ont qu'à régler parce que le communiqué auparavant que la société nous a dit que ça va s'améliorer parce qu'il y a des problèmes au niveau des fournisseurs, des partenaires, fournisseurs nigériens au Ghana. S'il y avait l'argent, ça allait être réglé. Togocom aussi a des problèmes pour régler aussi des factures à ces gens parce qu'il y a les EPA, les établissements publics administratifs qui ne paient pas. C'est ce que relève le trésor public. Donc il faudrait que ces messieurs-là, ces établissements, ces sociétés et autres, puissent régler leurs factures pour que le Togolais retrouve l'électricité dans sa normalité, pour que Togocom et la T2 aussi puissent aussi mener leurs activités. Par rapport à notre confrère qui est menacé, je pense que le confrère a fait un travail. Il a là un reportage. C'est une journée à la journée mondiale de la femme.
Oui, des droits de la femme.
Des droits de la femme. Et qu'une commune a organisé une conférence débat pour débattre de l'indépendance financière, de l'autonomie financière de la femme.
Tout à fait, j'y étais.
Lorsque ça s'est passé et que quelqu'un est sorti du cadre du thème pour parler d'autres choses, de la polyandrie, et que le journaliste a fait son travail. Je ne vois pas pourquoi on va se mettre à le menacer. Dans tous les cas, ce qui a été dit n'a pas été démenti par celle qui a fait cette déclaration-là. Elle n'a pas démenti, mais pourtant, elle dit qu'ils vont se retrouver à la hack pour s'expliquer où il y a devant les juridictions. Ça n'a qu'à aller là-bas, au lieu de publier les numéros du confrère, pour qu'on continue pas à le menacer. Et ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas normal qu'un journaliste qui a fait son travail puisse être objet de menaces et d'intimidation de la part de certaines personnes.
D'accord, ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, Sylvestre, carton de fin d'émission?
Non, carton de fin d'émission ne peut être qu'un carton rouge. Ne peut être qu'un carton rouge à ceux-là qui menacent donc les confrères parce qu'ils ont fait leur travail, quoi. Voilà.
Abbas, carton de fin d'émission?
Oui, mais carton vers au FDS, Force de défense de sécurité, qui sont dans le nord du pays. Et à qui on demande encore beaucoup plus de travail pour sécuriser la population et sécuriser également le déroulement de la campagne électorale. Je leur donne un carton vert et qu'ils puissent nous mettre dans la sécurité, empêcher ces terroristes, ces fous de Dieu d'occuper un territoire, un kilomètre de notre territoire.
D'accord. Notre confrère Raymond Diapaté est resté avec nous, de santé et éducation, bien sûr. Alors, vous avez un carton de fin d'émission?
Oui, carton rouge à la CET, parce que ça fait pratiquement plus de 3 jours que nous, on n'a pas le courant.
Chez vous, à santé et éducation?
Santé et éducation.
Vous travaillez comment?
Voilà, c'est ça le souci. Donc, il y a aussi... ce délestage qui cause aussi des réels problèmes, en fait, au niveau des systèmes de santé.
Tout à fait.
Les centres de santé, les CMS, tout ça. Donc, voilà.
D'accord.
On n'a qu'à tout faire pour régler le plus vite possible.
C'est très important. Alors, Sylvestre, merci à toi d'être passé dans cette émission. Abbas, merci. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous pour animer cette émission. Et Raymond Diapata, merci à toi aussi d'être passé dans cette émission, puisque nous sommes à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis aussi depuis chez vous. Merci à vous également qui avez fait votre manifestation téléphonique. Vous nous avez appelé. Vous avez participé à ce débat. Merci beaucoup à vous. Merci à Thomas Daté qui a assuré la mise en onde. Jérôme Darkoutcha a assuré la mise en ligne et c'est ce qui fera que vous pouvez suivre cette émission sur nos différentes plateformes digitales. Et merci, je suis Pascal Lossou, je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Au revoir.
Force de défense de sécurité pour le Togo et pour l'Afrique. Force de défense de sécurité. marche tous les fronts pour le Togo. Au risque de leur vie, au Dieu de gloire. Nous vous attendons tous au pays pour célébrer la grande victoire. FDS, bon courage. FDS, tu vaincras. Hommage au FDS du Togo. FDS de soutien. Hommage au FDS de combat. Tombé sur les fronts. Hommage au FDS du Togo. FDS de la paix. Hommage au FDS de combat. FDS de victoire.
Les personnes, les biens, les acquis du peuple sont à préserver. Hommage au chef des armées, son Excellence Monsieur le Président fort et sans Zinane Nassimbe. Hommage aux forces de défense et de sécurité et à tous ceux qui sont tombés sur les champs de bataille. Paix au Togo et paix en Afrique et dans le monde.
Hommage au FDS du Togo.